que tu sois le porte-parole des mots et non leur usager besogneux. Commençons par le commencement, Pierre Gugliotta, c'est-à-dire par la rencontre avec Michel Léris. Elle se situe vers le milieu des années 60.
Oui, même, je connaissais pratiquement pas son œuvre. C'était un nom à l'époque, enfin 63-64, à mon tour d'Algérie, quand j'ai commencé à faire des articles à Arrêt Spectacle, dans France Observateur, ce qui était à l'époque France Observateur. Et j'ai eu affaire, je ne sais pas pour quelle raison, était-ce à cause du Roussel de Foucault, je ne sais pas de quand il date, j'ai eu affaire quelque chose. Donc j'ai fait une pige donc à France Observateur en fin 63, début 64, peut-être début 64. Je ne connaissais pas Roussel non plus, très peu. Donc j'ai un peu lu à cette époque-là, ce dont on disposait à cette époque-là. Et on m'a dit qu'il fallait aller voir Michel Léris, qu'il avait donc des liens d'amitié. Il y avait un lien familial, enfin pas parental, mais un lien familial. Voilà. Et donc j'ai pris rendez-vous. Je me souviens pas du reste comment. J'étais très jeune, donc j'étais très inexpérimenté. Donc je ne sais pas si je l'ai appelé moi-même. Ou si quelqu'un l'a appelé pour moi. Donc, toujours dit, je me suis retrouvé avec des grands Augustins devant la porte. Et ce n'est pas lui qui m'a ouvert, c'est un maître d'hôtel. Il y avait un maître d'hôtel en tenue, je crois. Mm-hmm. Je ne crois pas me tromper.
C'était le maître d'hôtel de Canveller.
En tout cas, moi, ça m'a beaucoup frappé, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un maître d'hôtel, sinon dans les romans, si vous voulez. Et donc je suis passé dans un petit salon, je crois, qui donnait sur la Seine. Et là, donc, j'ai pu parler avec lui pendant peut-être deux bonnes heures, quand même, de Roussel. Il était extrêmement gentil. Et donc, j'ai un peu reproduit ce qui... C'était un article, hein, c'était pas une interview. Un article. Et j'avais intitulé, du reste, l'article, je l'avais titré Le douanier Roussel. Enfin, c'était une petite plaisanterie, parce que c'est pas du tout du même ordre. Mais ça ne fait rien, c'est le journalisme. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai connu un homme extrêmement courtois, bien entendu, très gêné, toujours très... d'une timidité pire que la mienne à l'époque. Hein, et voilà. Et après, je n'ai plus revu, parce qu'après, c'est au moment de ce voyage à Cuba en 1967, juillet 1967, quelques mois avant la parution de Tombeau pour 105 000 soldats, donc en septembre. Le manuscrit était déjà très, très discuté, et donc il connaissait déjà. Et donc j'ai fait partie de cette délégation, qui comprenait aussi bien Marguerite Duras que Maurice Nadeau, Denis Mascolo, Françoise Giroud, etc.
Vous étiez le plus jeune.
J'étais très largement le plus jeune et le plus inexpérimenté. Je n'avais jamais fait ce genre de voyage, et je n'en ai jamais plus fait après, du reste. Ce genre de voyage intellectuel. Je n'étais pas communiste encore à cette époque-là. J'étais intéressé. J'étais assez porté vers cette doctrine et ce lyrisme-là. Donc je suis arrivé là, et donc j'ai fait vraiment connaissance de Léris, qui était le chef de la délégation, en quelque sorte, à cause de sa connaissance du monde caraïbe, etc., de son amitié avec Wilfredo Lam et Alejo Carpentier, bien entendu. Et donc on a fait le voyage ensemble, ce qui a amené des choses amusantes, évidemment, parce que on a passé une semaine entière avec Fidel Castro dans la Sierra Maestra, là où il avait commencé le maquis, et on le voyait tout le temps, on le voyait le soir, au dîner, si je peux dire, et un des derniers dîners, je crois, qui était un peu plus protocolaire, bien qu'étant en pleine forêt, il y avait une immense file de, je me souviens de ça, un immense fil de tal, peut-être, je ne sais pas, des centaines de tal avec des nappes blanches qui étaient disposées sur une sorte de crête, vous savez, dans la Sierra Maestra, la nuit, ça c'était très étrange, pour manger du porc et, aux haricots rouges, je crois. Et à un moment donné, donc, il y a eu des toasts, il y a eu des petits discours, etc. Et alors, il y a eu cette chose amusante, j'étais très peu au courant, moi, encore, des us et coutumes des intellectuels français, et surtout des rapports avec le Parti communiste. C'est après que j'ai lu beaucoup de choses. Et à un moment donné, donc, Fidel Castro, pas du tout au courant, bien entendu, des subtilités parisiennes, politico-intellectuelles, a demandé, à un moment donné, à Michel Leiris d'insister auprès du général de Gaulle pour venir à Cuba, si vous voulez. C'est ignoré, évidemment, que Leiris détestait de Gaulle à cause de quantité de choses, etc. Enfin bref, sur lesquelles c'est même pas la peine de revenir. Et donc c'était assez amusant de voir cet homme qui demandait donc à cet homme qui n'était pas du tout... voilà, c'était extrêmement drôle, et on avait tous beaucoup ri du reste. À ce moment-là, évidemment, Leiris, avec sa timidité, mais son désir de plaire et d'être courtois, avait répondu en rougissant, je ne sais pas très bien, j'essaierai de faire quelque chose, mais enfin, non, personne n'était dupe, bien entendu. Voilà, mais sinon, c'était un... Et puis aussi, voilà, il y a eu que j'avais à ce moment-là écrit un texte qui s'appelait Tam Tam, qui est sorti dans le numéro 1 des Cahiers du Chemin, en numéro 1 du reste, et qui est une des matrices d'Aden Aden Aden, que je ferai après. Et ce texte, je l'avais avec moi quand j'ai emporté. Et je ne sais plus qui le lui a montré.
Alain Jouffroy,
voilà. Alain Jouffroy, qui était membre de notre délégation, et lui a montré ce texte. Il a été très, très emballé, il l'a écrit, et depuis, au fond, on est resté, enfin depuis, pour quelques années, depuis on est resté en contact. C'est de là que vient vraiment son intérêt, enfin, un peu plus que son intérêt pour ce que j'écrivais à cette époque-là.
D'après mes informations, Pierre Guillotin, à Cuba, vous n'avez pas véritablement joué le jeu. Vous avez, par exemple, refusé de remplir votre case dans le fameux mural.
Le mural,
que chaque intellectuel présent devait remplir.
Oui, c'était sans doute par timidité, par le fait que, je ne sais pas, peut-être que... Non, c'est intéressant de parler de ça, parce que c'est aussi une coupe dans l'histoire politique des intellectuels français. C'est pour cela que, si vous voulez, l'idée de révolution n'était pratiquement pas contestée, sauf à droite, disons, mais toute la gauche était pour, même tout le progressisme était presque tout, si vous voulez. Alors moi, j'ai pas participé à ça parce que, comment dire, parce que peut-être j'étais le plus jeune, je n'avais peut-être pas quoi mettre. L'idée de monter là-haut, de mettre quelque chose, ça ne me faisait peut-être pas beaucoup. Ça ne m'intéressait pas énormément. Je ne sais pas ce qui s'est fait. En tout cas, j'étais le seul, effectivement, qui n'ait pas fait quelque chose. Et Leiris a fait au milieu du reste du mural, a fait qui prouve bien ce que je dis. Il a écrit cette phrase avec ses très jolies écritures, très, très lisible, très belle. Vive Cuba, rose de la révolution. Oui. C'était tout à fait typique forcément d'un aveuglement, il ne faut pas juger les choses comme on les juge maintenant, mais d'une certaine, certaine naïveté, d'une certaine façon. C'était déjà assez. Quoique, dans ce voyage, beaucoup a été fait aussi. On a fait des pétitions internes, si je peux dire, pour s'enquérir, si vous voulez, de la situation d'éventuels prisonniers politiques. Il y avait quand même ce souci, c'était pas aussi béat qu'on le croit.
Vous avez été assez critique à l'égard de ce que vous avez
pu voir. Oui, j'étais très touché, bien entendu, c'est la première fois que je venais dans un pays de ce genre, mais j'ai été critique, vous savez, oui, dans mes carnets, là, bien sûr, c'est critique. Mais
le machisme, par exemple.
Les carnets, c'est toujours très critique, forcément. Hein, c'est pas forcément très optimiste, les carnets. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais en même temps, oui, voilà. Mais j'étais très partagé. Parce que je ne connaissais pas encore bien la théorie, l'histoire du communisme. Et ce que j'ai été déçu, si vous voulez, d'entendre des discours... extrêmement stalinien d'abord, si vous voulez, sans aucun lyrisme, enfin sans âme, si vous voulez, des discours productivistes, au fond. Hein, de la part de jeunes gens, qui étaient très fidèles à la théorie, etc., et qui travaillaient beaucoup. Voilà, ça, enfin, mais surtout, j'ai trouvé qu'il y avait un machisme régnant. Bon, c'était un pays hispanique, hein, d'origine hispanique, bon, etc. Il y avait... C'était compris. J'ai senti quelque chose, mais ça ne tient qu'à moi, si vous voulez. Je peux pas en faire une théorie. Ça ne tient qu'à moi. J'ai toujours été, pour des raisons X ou Y, exaspéré, très gêné par le machisme. Oui. Mais ça, c'était
surtout révolutionnaire, surtout le machisme.
Ouais, surtout révolutionnaire. Voilà, dans la vie, bon, confronté à ça de moins en moins. Du reste, c'est beaucoup plus subtil maintenant. Mais là, c'était vraiment presque instauré, presque physiquement. C'était très présent physiquement. Et je n'ai pas aimé ça du tout. Enfin, ça se comprend. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'assurance. Il n'y a rien qui m'exaspère autant, qui me révolte autant que l'assurance, si vous voulez, l'assurance d'avoir raison en tout, d'être ci, d'être ça, d'être beau, d'être les premiers, d'être exaspérante. Voilà, exaspérante. Je n'étais pas le seul, je pense, J'étais beaucoup plus intéressé par bien d'autres choses à Cuba. Hein.
Le monde bourgeois n'était pas tout à fait mort à Cuba en 1967.
Non, il s'était reconverti, si vous voulez. Une reconversion comme il aurait pu se reconvertir ici, si par malheur ce pays était devenu communiste, mais c'est une reconversion facile. Il y a des gens qui, enfin, vous le savez très bien, hein, qui marchent au canon, au vent, c'est pas du tout incompatible être bourgeois ou être fils de bourgeois, etc. être révolutionnaire, c'est pas incompatible du tout. Simplement, on transporte, c'est ça aussi qui m'exaspérait, c'est le côté, malgré tout, mondain, malgré la fièvre, l'exaltation de tous les jours. Je sais que c'était exalté, au moins, plutôt que d'être exaltant.
Vous aviez des conversations, des discussions avec Michel Léris sur ce que vous pouviez observer sur place ?
Oui, mais peu, vous savez. C'était quelqu'un d'extrêmement discret. Et donc, on avait quelquefois des mêmes... Des choses peuvent passer dans un sourire ou une connivence quelconque. Un petit mot, non, je ne me souviens pas. En plus, il était très entouré, si je peux dire, par les gens de son âge. Son âge, vous voyez. Il y avait sa femme, son épouse Zette, bien entendu, qui était extrêmement gentille avec moi, du reste. Et il y a eu j'ai rapporté des cassettes de cette chose-là, et on était toujours ensemble, effectivement, tout le temps proche, à quelques 2-3 mètres, tout le temps, chaque fois. Et c'est un personnage, j'ai pu l'observer avec beaucoup de. Et j'ai eu très tôt une grande tendresse. C'était quelqu'un pour lequel on ne pouvait avoir que de la tendresse. Il voulait avoir ce prestige-là, dont je ne connaissais pas encore bien la nature, parce que je l'ai lu au fond presque en revenant, ou un petit peu avant. C'est lui-même qui m'a donné ces livres, mais sans dédicace, parce qu'il savait que je n'étais pas du tout attaché à cette époque-là, j'étais un vrai sauvage. Et donc il m'a donné l'Afrique fantôme, dans une édition, l'édition bleue, la très belle édition chez Gallimard, et puis les livres qui sortent à l'époque, Fibril, etc. Je l'ai connu à ce moment-là. J'ai souvent connu du reste des œuvres en connaissant, parce que je venais de connaître la personne. Pas avant. Donc c'était ce prestige, et ce mélange de prestige, ce nom, et puis cette extrême faiblesse, au fond, cette extrême timidité, qui le rendait extrêmement, extrêmement attachant. Tout à fait contraire, alors, à l'ambiance générale, à Cuba à cette époque-là, et en général à, à l'ambiance mondaine intellectuelle de cette époque à Paris. Mmh. C'est pour ça qu'il me plaisait beaucoup.
Il ne vous a pas dédicacé ses livres. Est-ce que vous avez dédicacé celui qui avait été publié à l'époque, c'est-à-dire Tombeau pour 500 000 soldats?
Peut-être, je ne me souviens pas. Mais je ne faisais pas dédicace à cette époque-là. Vous savez, je n'étais pas du tout... J'en ai fait un peu après. Non, je n'en faisais pas. Ou je signais à la fin du livre, ce qui posait des problèmes pour les gens qui attendent, qui avaient le réflexe de tout de suite regarder la première page. Oui.
Vous le disiez, Pierre Guyotin, Michel Héris a été très impressionné par la lecture qu'il a pu faire de Tam Tam, donc les premières pages en fait de Eden, Eden, oui, Eden. Oui, oui. Si bien que de retour en France, il a voulu faire lire Tombeau pour 500 000 soldats à Picasso.
Oui, oui.
Et il a apporté le livre à Mougin pour le lui donner.
Voilà. Je l'ai rencontré du reste dans la rue, j'étais en train de réparer ma deux chevaux du reste, du côté, dans le 6e arrondissement. Et j'étais sous ma voiture, même, je crois. Et il m'a tapé l'épaule. Il avait un cartable dans son. Il avait un cartable à la main. Il allait tout simplement à la gare, prendre le train. Et il m'a dit: devinez ce que j'ai dans mon cartable. Et il m'a dit: je vais tomber sur mes soldats, je vais voir Picasso à Mougin et je vais. Si vous le voulez bien, je vais le lui apporter. Voilà. Après, il a témoigné, du reste, dans un procès que j'ai eu, je peux dire, avec mon ami, Dominique Deroux, qui n'avait rien à voir avec... qui avait à voir avec un contrat. Et donc, là, il a fait aussi un texte, il a donné au tribunal un texte très beau. Et après, je l'ai retrouvé, donc, au moment d'Eden, Eden, Eden, quand le livre a été d'abord une première fois refusé. Aux éditions Gallimard, puis évidemment accepté sur son intervention. C'est lui qui a, avec Claude Gallimard, eu l'idée de ces trois ou quatre préfaces, du reste. Et c'est lui, personne d'autre, c'est lui.
Le livre posait problème.
Posait problème, oui. Et il posait problème à lui aussi.
Ouais, il a été évasif lorsque vous lui avez demandé de faire une préface.
Ah non, mais il a fait une magnifique préface. Il a lu...
Dans un premier temps...
Non, mais je pense qu'il était... Il devait avoir beaucoup de choses à faire à cette époque-là. J'étais très pressant, moi, parce que je voulais que les choses se fassent vite pour pouvoir repartir au Sahara. Mais j'étais très égoïste, de toute façon. Et donc, j'ai mis du temps après à comprendre que... Il avait évidemment d'autres chiens à fouetter, mais simplement... Non, mais il n'y a eu aucune... Je pense que c'était... Il y avait certaines choses dans le livre qui le gênaient dans sa biographie. Je l'aurais préféré... On aurait pu faire le lien entre certaines rumeurs sur ses débuts, sa relation avec Mathieu Apop, par exemple. Mais enfin, ce livre n'est pas que ça, tout de même. Enfin, il y a de tout. Et donc, il a fait une préface magnifique.
Dès qu'il a su que le livre était refusé par Gallimard, il est allé voir lui-même Claude Gallimard.
Claude Gallimard, c'est lui qui a fait ça, qui a vraiment obtenu, en disant qu'il n'était pas normal qu'un éditeur de cette trempe, de cette envergure, refuse un livre pareil. Voilà.
Et le livre a été publié avec sa préface celle de Michel Foucault, de Roland Barthes,
le livre a été publié,
de Philippe Solers.
Le livre a été publié un an après. Oui, mais il était vraiment l'artisan de ça, enfin de cette combinaison, si vous voulez. Il me disait, toujours très proche de Flaubert, on parlait d'Aragon, il avait été très violent avec Aragon. Lui qui était très peu méchant, qui était extrêmement... était très, très violent. À cette époque-là, dans les années 70.
La réception de Eden, 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 ça n'a pas été si facile que ça?
Non, bien sûr que non, bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Enfin, ça, c'est autre chose.
C'est une autre histoire, mais Michel Héris a été en première ligne aussi dans la défense du livre.
Oui.
Et parmi les premiers signataires de la motion,
je pense que Philippe Solers et Jérôme Lindon ont été après les deux, et même pendant l'attente de la décision positive de Gallimard, vraiment des amis et des défenseurs très épatants, incontestablement. Je pense que Léris avait du prestige chez Gallimard, donc il pouvait obtenir ça. Il est allé lui-même, non ? Voilà.
Léris avait aussi du prestige au Musée de l'Homme.
Oui.
Et il vous a permis de...
Voilà, c'est ça, c'est vrai, je me souviens maintenant, vous avez raison.
D'entrer à la bibliothèque.
Oui, j'y suis entré, alors j'y suis allé plusieurs fois, parce que avant de retourner en Algérie, et de retourner dans le Sahara, après Eden Eden, et avant, j'ai pu lire beaucoup de choses qui ne m'ont pas servi énormément, parce que je voyais... C'est simplement pour nommer les choses, si vous voulez, nommer les choses dans ce livre et dans d'autres après. Mais il est extrêmement gentil. Une fois, j'ai déjeuné donc, même plusieurs fois avec lui. Il m'a fait connaître Jean Rouch, par exemple, parce que j'étais reparti aussi au Sahara avec des recommandations de Jean Rouch, parce que je voulais aller jusqu'en Afrique noire. Et donc, on l'a vu, nous l'avons vu ensemble. Mais c'est très intéressant, vous voyez, je pense que ce qui fait la beauté de Léris, de son œuvre, qui fait qu'elle durera sans conteste. Elle est suffisamment modeste, si vous voulez, dans son propos, et suffisamment parfaite dans sa réalisation pour durer. Si vous voulez, je pense que beaucoup d'idoles seront à bas quand lui sera toujours là, avec son petit moi torturé. En cela, il était assez proche d'Artaud, de certaine façon, encombré d'un moi pénible, enfin, qu'il jugeait pénible. Sauf Artaud en a fait autre chose, bien entendu. Mais je trouve que c'est une œuvre. Et au fond, j'ai toujours pensé que il avait heureusement qu'il a fait de l'ethnologie, parce que on le voit même à travers sa poésie, dont je suis moins proche, quoi qu'il y ait de belles choses. Et ce qui sauve la poésie, comme ce qui sauve cette prose, c'est le rapport à l'ethnologie. C'est-à-dire, c'est la précision du savant. Même si c'était pas un très grand savant, c'était même un homme qui était habitué à réfléchir, à déduire, tout ça. Quoi que Griot l'ait pu dire de l'Afrique fantôme, que c'était pas du tout... c'était trop... Ou d'une thèse qu'il a fait, je crois. Que c'était trop poétique, trop par un coup. Mais je pense qu'un peu comme Descartes, qui était un savant, un mathématicien, un peu comme Buffon, aussi, dont il est assez proche, finalement, qui étaient donc des savants, il a ce souci, quand il commence une phrase... De tout ratisser, si vous voulez, de tout éclairer, les côtés avant, après, après, à droite, à gauche. C'est ce qui fait que cette écriture n'est jamais vaine. Il n'y a pas une seule phrase vaine. Peut-être dans la poésie, une seule phrase qui ne soit pas efficace et juste, si vous voulez. Le moindre petit mot, les petites lettres, les petits mots, c'est toujours d'une extrême précision. Et sans solennité aucune, mais c'était précis, vous voyez, presque comme des formules magiques, presque d'une certaine façon. Il n'y avait pas de jeu. Le jeu, c'est ce qui raconte de lui, suffisamment tortueux, instable, etc., insatisfait. Mais je pense que ces trois grands écrivains, parce que je pense que Léris est vraiment un grand écrivain, ont ceci en commun, c'est l'habitude d'un style scientifique, malgré tout.
Ça serait quoi la règle du jeu ?
Ben, je ne connais pas très bien son... Il y a toute une partie de l'œuvre que je ne connais pas très bien. Le rapport à la tauromachie, tout ça.
La métaphore tauromachique, ça vous touche ou pas, par rapport à l'écriture ?
Oui, pourquoi pas, oui. Moi, je prendrais d'autres métaphores, mais pourquoi pas ? S'il connaissait bien cette chose, et je crois qu'il la connaissait très bien, oui, c'est pas quelque chose qui me paraît très important dans son œuvre, ça, je trouve.
Il n'y a pas de taureau qui vous fonce dessus quand vous écrivez,
vous ? Oui. Non, bien sûr, oui. Non, mais j'en ai pas qu'un, j'en ai mille dessus. Mais c'est peut-être un peu exagéré, si vous voulez. Soyons un peu plus modestes dans le... C'est curieux, parce que cet homme qui est très modeste dans l'énoncé et dans son propos, là, une espèce de métaphore avec laquelle il semble qu'il se rattrape sur ça, sur cette modestie. C'est possible. C'est vrai, il y a un geste, le geste de créer, est un geste violent, bien entendu. Un geste qui fait peur, en tout cas. Si c'est ça... Si c'est ce qu'il veut dire, moi je n'ai pas lu ce texte depuis très longtemps. Ces textes, il y en a deux ou trois jours. C'est la peur qui est le sentiment La peur et l'envie, la peur et la joie. C'est pas un affrontement avec, vous voyez, la page blanche et la tauromachie, c'est pas des choses qui me touchent concernant l'écriture seulement.
Avec quoi se fait-il peur, selon vous, Michel Léris?
Ah, lui, je sais pas, il a pas tellement parlé de ça. Il a tout de suite pris une métaphore violente et définitive. Je ne sais pas comment, je me pose la question de savoir comment il écrivait. S'il écrivait lentement, il m'a dit qu'il écrivait très lentement. Très lentement. Parce que chaque texte était très élaboré. C'était comme une notice ethnographique. Comme ces ostracones en Égypte, et ces galets écrits. Tout est... Et pourtant, ça dégage une liberté, une légèreté en même temps.
Vous retenez de cette œuvre, en dehors de la précision scientifique de l'ethnographe?
C'est une œuvre, comment dirais-je, si on veut connaître ce qu'était un homme de cette époque-là, c'est un excellent livre, avec ses illusions, ses manques, le Léris politique est très intéressant quand même. Il était extrêmement... on pouvait le solliciter pour beaucoup de choses. Il était très efficace. Il était très précis aussi. Et puis L'Afrique fantôme, c'est un livre magnifique. C'est un livre qui est sans exemple dans la littérature française. Absolument sans exemple. Parfait pour comprendre ce qu'a pu être le voyage. Un voyage relativement inconfortable quand même à l'époque. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que j'ai beaucoup voyagé, pas avec des missions, mais j'ai beaucoup voyagé à cette époque-là, d'une façon plus libre, et j'ai éprouvé tout ce qu'il éprouve, c'est-à-dire la lassitude, la crainte de ne pas être à la hauteur, la crainte de passer à côté de la relation humaine, tous les jours, à toutes les heures de la journée. C'était parfait pour lui, qui était un homme, vous savez, qui était toujours inquiet de lui, inquiet de sa... Non, pas du tout narcissique, absolument pas. Mais voilà, qui a pris la décision de s'ethnographier lui-même. C'est magnifique quand même, avec grande précision. Pas une, comme on dit, une grande, comme il faut dire maintenant, vous savez, ou bien on se loue, ou bien on se détruit. Pas du tout, c'est très précis. Je me souviens d'un texte d'un morceau dans Fibril où il parle de... Il est en Grèce, quoi, il est tout seul, je crois, en Grèce. Son épouse n'est pas là. Et tout seul, il n'a plus d'argent. Je ne sais plus mais ce qui se passe, ce qui paraît un peu étrange. Il avait quand même un peu d'argent. Et il n'a plus de devise. Je ne sais pas comment. Il y a tout un passage formidable où il est complètement détruit par ce manque-là. Et alors il raconte. Je trouve ça formidable. C'est très, très intéressant, ça. Le propos est très. Il paraît limité. Il nous paraissait très limité à nous quand on en parlait dans les années 70. Je me souviens des discussions avec Philippe Solers. On l'aimait beaucoup, bien entendu. On aimait énormément d'affection, si je peux dire. Mais c'est vrai que c'était une œuvre qui nous paraissait, à moi un peu moins, parce que je connaissais aussi le voyage, tout ça, les populations, certaines des populations auxquelles il s'est intéressé. Je connaissais aussi cette question-là du trouble dans lequel on est dans un voyage, si vous voulez, dans une civilisation autre. Mais c'est vrai qu'on trouvait, à l'époque, on était très jeunes, on trouvait que l'œuvre manquait d'audace, de propos. Hein. On ne faisait pas du tout de commentaires sur la langue, qui était magnifique, qui retombait magnifiquement sur ses pieds tout le temps, chaque phrase. C'est ça qui est bien. Mmh. Ou comparer ça avec de la littérature, bref, courante aujourd'hui, c'est pitoyable.
L'audace, est-ce qu'elle n'était pas dans cette façon qui lui appartient en propre de débusquer le merveilleux dans le
Mais on jugeait, que l'autobiographie n'était pas quelque chose de... n'était pas quelque chose de révolutionnaire, n'était pas quelque chose d'intéressant artistiquement parlant. Ou alors il fallait transformer ça et en faire ce qu'on a fait Joyce, si vous voulez, ou d'autres, ou Proust, bien entendu, mais Joyce à l'époque, bien entendu. Alors Lyris, c'était, voilà, se limiter à lui-même, à ses faits et gestes, à ses gestes, ses vêtements, évidemment, c'est grandiose, bien sûr, un être humain, bien entendu. Mais c'est très intéressant aussi l'homme politique, mais l'homme touché par l'homme de la décolonisation. Oui. Parce que lui, c'est très intéressant. Je me suis dit, mais au fond, on était une génération totalement différente, bien entendu. Et lui était dans une génération qui était encore pleine d'illusions sur le monde. Le monde était dans une situation telle que, voilà, il ne pouvait pas avoir tellement de doutes, au fond. Et nous, notre génération, celle qui approche les 70, on aura connu les deux. On aura connu d'abord le désengagement dans nos origines peut-être sociales, puis l'engagement, donc une bonne part d'illusion. On aura connu aussi la désillusion. La colonisation à son maximum, même, enfin 45, et puis la décolonisation. Lyris a connu le monde colonial, le monde où la révolution était considérée comme l'avenir de l'humanité, l'avenir du globe même, d'une certaine façon, si vous voulez. Et c'est très touchant de lire tous ces textes-là. Je lis sans aucun sourire, sans aucune indignation, pas du tout. Il y croyait vraiment. C'était une forme de, comment dire, d'ornement même intérieur de la vie, si je peux dire. Cette croyance dans la révolution. Vive Cuba, rose de la révolution. Et vous voyez pas ce que cette rose avait de sanglant, quand même. Déjà.
Aujourd'hui, il n'y a plus rien à quoi on puisse croire.
Ça, je ne sais pas. Ça,
oui. Vous?
C'est une question d'âge aussi, d'avancer dans le temps. Hein, lui, je me suis toujours posé la question, à quoi croyait-il en dehors de cette croyance de la part d'un grand bourgeois, quand même? C'était resté un grand bourgeois, quand même. Hein. À quoi croyait-il vraiment? Quel était son but, si vous voulez? Je pense que ce n'était pas matérialiste. Ce n'était sûrement pas matérialiste, comme la plupart des gens de cette époque-là. Si vous voulez, ils étaient tout de même de la même génération, Marteau, tout ça, Breton, tout ça. C'est peut-être des gens qui avaient, moins pour Artaud bien entendu, qui détestaient la foi, tout ça, etc. Et qui n'étaient pas forcément hostiles à une transcendance ou à une... En tout cas, ce n'étaient pas des gens que la matière, que l'homme matière satisfaisait. J'en suis absolument sûr maintenant. Voilà. Moi, je suis peut-être dans ce cas encore. Mais je ne suis pas le seul. Si vous voulez, voilà, je crois. Maintenant, je ne peux pas parler à sa place, je ne sais pas.
Il me semble qu'il y a encore un point de rencontre que vous avez pu avoir avec Michel Lyris, oui, Pierre Guillotin, on n'en a pas parlé.
Oui.
C'est la musique.
Oui, oui. Lui aimait beaucoup l'opéra. C'était plutôt l'opéra.
Le jazz?
Le jazz aussi, oui. Il aimait l'opéra au moment où je ne l'aimais pas encore beaucoup. Je connaissais, mais je ne connais pas beaucoup. Le jazz, bien sûr, oui, le jazz, oui. Oui, oui. Et là, évidemment, la peinture, bien entendu. La peinture, oui. Énormément, la peinture. Une époque où on pouvait aimer la peinture. C'est pas mal. Mais à l'époque, c'était une... Comme j'ai vu dans un article récemment, c'était une peinture réaliste. Il aimait les peintres réalistes. C'est drôle, hein. Picasso, Masson, et Bacon, bien entendu. C'est drôle que ça soit considéré maintenant comme la peinture réaliste.
Vous n'avez jamais écrit avec Lyris, l'influence dans...
Ah si, quand je l'ai lu par exemple, quand j'ai commencé à le lire, c'est-à-dire avant ou après Cuba, je ne sais plus très bien. En tout cas, ce que j'ai lu m'a confirmé, si vous voulez, dans ce que je pensais de ce que je faisais. Si vous voulez. Mais si on voit les choses, au fond, c'est que j'avais écrit ce livre, ce texte, Tam Tam, qui est assez lyricien, finalement, c'est vrai, avec sa précision, sa froideur relative, enfin, vous savez, froideur un peu à la Buñuel, c'est comme La Surdesse, le magnifique film de... Cette espèce d'objectivité sous laquelle il y a une indignation et un désespoir complet, une indignation sociale et un désespoir complet. Mais comme je l'ai lu après, je ne sais plus très bien, vous voyez, peut-être que j'en ai lu un petit peu avant Cuba et que ça a dû certainement, j'ai écrit ce texte quelques jours avant d'y aller. Donc, mais certainement il y a eu une influence, en tout cas dans Eden, c'est certain. L'influence est très compliquée à définir. Vous pouvez aussi être très influencé par un auteur même qui n'est pas d'une très grande taille, vous savez aussi. Tout simplement dire quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, et vous êtes influencé. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait trop rien. Je ne sais pas. Moi, ça m'a confirmé, si vous voulez, dans le désir que j'ai eu d'être aussi exact que possible dans Eden. Donc, c'est tout ce côté descriptif. Enfin, cette intégration de la nature, de la matière, non pas comme lyrisme, mais comme matière, si vous voulez, les petits animaux, choses comme ça. Ça vient beaucoup de ce qui m'a permis de lire, justement, la Bibliothèque du Musée de l'Homme. Où, comme vous le dites, vous m'avez rappelé, il a été extrêmement gentil, il m'a accompagné.
Parce que vous n'aviez pas les diplômes requis.
Je n'avais pas les diplômes requis, je n'avais aucun diplôme. Il a un peu commencé comme moi, au point de vue des diplômes, mais il a persévéré après son voyage en Afrique, si vous voulez. Et il a eu à ce moment-là, il a obtenu des résultats universitaires, etc. Mais je ne sais pas où en est cette œuvre aujourd'hui. Bon, c'est disponible maintenant, c'est très bien, en grande partie, mais je ne sais pas si c'est une œuvre qui est beaucoup lue. Elle est certainement lue, bien entendu. Il y a, je pense, des gens qui l'aiment profondément, qui l'aiment contre. On aime les risques aussi contre d'autres qui sont plus spectaculaires et qui peut-être seront peut-être moins assurés de durer.
Pierre Guyotat revenait ce soir sur sa rencontre avec Michel Léris. Du jour au lendemain, Pascal Bénard, Séverine Cassard, Alain Weinstein, bonsoir.